La seule façon de contrecarrer quelque peu l'extrémisme ou le populisme de droite, ce serait à gauche d'avoir une véritable vision crédible à proposer un véritable programme. Je le lis souvent dans les écrits de certains collègues, et c'est juste ce dont l'Europe aurait besoin. C'est une alliance des forces social-démocratiques et socialistes qui pourrait formuler une sorte de New Deal à l'échelle européenne. Le New Deal, c'était pas seulement un programme économique et social, c'était sur le plan du discours une mise en scène absolument fantastique. Brusquement, des millions de travailleurs américains s'identifiaient avec un programme parce qu'on leur disait « tout va s'améliorer, tout va changer pour vous », alors que c'était une période marquée par la pauvreté et beaucoup de chômage. Alors, le New Deal, ça n'était pas seulement un document. Le New Deal, c'était une idée, c'était une promesse. Et pour l'Europe, tant qu'il n'y aura pas un mouvement entre les sociaux-démocrates, les socialistes, les verts, tant que l'Europe n'aura pas un nouveau mouvement qui s'établira et qui pourra proposer quelque chose de similaire et qui ressemblerait à un véritable programme d'avenir, donc sur le modèle du New Deal, tant que tout cela n'existe pas, tant qu'on n'arrive pas à toucher les couches sociales les plus défavorisées, rien ne changera grandement en Europe. Est-ce qu'à votre sens, on peut encore parler véritablement de différences ou de conflits entre la droite et la gauche, ou est-ce qu'on n'a pas plutôt d'un côté ceux qui, au centre de leur programme, ont encore les faits et la vérité, et de l'autre côté ceux qui manipule l'information et la vérité. D'ailleurs, c'est un enseignement des deux autres conférences de ce cycle. Au début du régime hitlérien, on ne cessait de tout faire pour détourner l'attention des véritables problèmes. On essayait de capter constamment l'attention des citoyens avec d'autres nouvelles. Là, on constate des parallèles avec le fonctionnement de Donald Trump. Donc, je me demande, est-ce qu'il faut véritablement un New Deal élaboré par les partis de la gauche, ou est-ce que ça n'est pas autre chose? C'est pour ça que j'ai trouvé le pape intéressant. Moi-même, je suis protestante. Je ne réponds pas de la mission catholique, mais il cite Hannah Arendt et il dit « Si on ne sait plus où est la vérité qu'on a mis en place un tel système marqué par le mensonge, eh bien dans ces cas-là, on s'avance à grands pas vers le totalitarisme. » Ce que vous dites est juste, bien entendu. Alors, il y a beaucoup de personnes qui s'efforcent de manipuler les faits, qui répandent des rumeurs, des mensonges, et qui le font sans gêne aucune. Est-ce qu'ils ne sont pas justement plutôt à droite de l'échiquier politique? Est-ce que ça n'est pas en fait quelque chose qui a été préparé de longue date, orchestré de longue date? Est-ce que ça n'est pas une contre-révolution contre l'ère de la social-démocratie? Ce n'est pas par hasard si Trump, Orban et autres, Bolsonaro par exemple, il y avait déjà des contacts étroits entre eux avant même qu'ils n'arrivent au pouvoir. Je ne veux pas répandre de nouvelles rumeurs, non. Mais je n'ai pas l'impression que la gauche, enfin difficile de parler de la gauche, je parlerai plutôt des forces qui s'intéressent pour une démocratie, qui s'intéressent à une démocratie sociale. Donc une démocratie avec un véritable socle social. Est-ce qu'on ne peut pas vraiment, on doit pouvoir les différencier clairement de la droite? Parce que c'est vrai que dans ces mouvements populistes, on constate cette manipulation de la vérité. On voit Trump qui, chaque semaine, trouve quelque chose de nouveau pour attirer l'attention sur lui. Et là, je crois quand même qu'il faut clairement établir un distinguo. Certes, il y a un mouvement populiste à gauche, certainement plus fort en France qu'en Allemagne. Mais j'ai du mal à l'évaluer, j'ai du mal à voir si, comme le populisme de droite, il manipule, mais je sais que les démocrates sont très faibles aux États-Unis. Leur politique n'est pas bonne, mais ils ne manipulent pas les faits, la vérité, alors que les républicains, en fait, ne cessent de le faire. Je n'ai pas l'impression qu'en Allemagne, les chrétiens démocrates ou les sociodémocrates détourne les faits, manipule. C'est ce que fait la droite populiste, c'est ce que faisait Orban. Donc, je crois qu'on peut continuer de fonctionner en établissant un distinguo entre les libéraux de gauche et la droite. La droite, c'est toujours un peu synonyme d'exclusion. Exclusion de certains personnes du processus démocratique, qu'il s'agisse des migrants, qu'il s'agisse des réfugiés, que ce soit les Afro-Américains aux États-Unis qui sont de plus en plus exclus des élections de par le redécoupage des circonscriptions électorales. Mais je crois que on pourrait nommer certaines politiques qui sont particulièrement caractéristiques de la droite, qui sont des marqueurs de la droite, alors que c'est difficile de trouver aujourd'hui des marqueurs de la politique de gauche, et ça explique la situation catastrophique dans laquelle on se trouve. Il n'y a plus d'identité de gauche, où la gauche se divise sur des questions qui ne devraient pas, par exemple, le permettre. La question de Gaza, la question de la Palestine, la question de la politique linguistique, de la politique identitaire. Et je crois que la gauche a perdu de vue ses grands acquis et ses vieilles traditions. Permettez-moi de revenir sur une chose, si j'ai bien compris. La droite chez vous, ça commence avec l'AFD, donc la droite populiste allemande. Mais ma question était la suivante. Est-ce que le modèle d'analyse est encore adapté au début de la République fédérale d'Allemagne? Il y avait un consensus, l'économie sociale de marché n'était pas seulement un concept de gauche, Ludwig Erhard est quelqu'un qui a été forgé en quelque sorte par la CDU, par les chrétiens démocrates, donc je crois qu'il y a eu un malentendu, parce que chez vous, la droite, ça commence avec l'AFD. À partir de là, je vous comprends mieux. Mais je voudrais de nouveau diriger le regard vers l'avenir. Nous comprenons bien les défis auxquels nous sommes confrontés, quels sont les enjeux, à quel point nos démocraties sont menacées, mais cela n'empêche que nous cherchons tous des réponses, nous demandons qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce que chacun peut changer dans sa propre vie pour ne pas sombrer dans le fatalisme et pour que nous n'ayons pas tous envie de quitter ce monde parce que nous n'avons pas encore tous atteint l'âge mûr de Jürgen Habermas. Ouh là là, c'est une question très difficile. Elle se pose différemment dans chaque pays. On ne peut y répondre, je crois, qu'en fonction des données nationales. La question se pose différemment selon qu'on est italien, espagnol, français ou allemand. N'oublions pas, même si on est si européens, que nous continuons de vivre dans des cultures très nationales. Nous avons été optimistes, nous pensions que l'on pourrait surmonter les frontières nationales très rapidement, et aujourd'hui on se rend compte que les débats, les problèmes restent très axés sur l'échelle nationale. Je l'ai déjà dit, en Allemagne, le débat sur Israël est mené totalement différent de la façon dont il est mené en France ou encore en Espagne. Et donc, la situation se présente très différemment en fonction des pays. Je crois qu'en Allemagne, je crois qu'il faudrait rappeler à la social-démocratie quelle étaient ses partisans, par qui elle était soutenue. La social-démocratie est en mauvaise posture en Allemagne, car elle quitte le gouvernement et qu'il devait y avoir de nouvelles élections, on ne sait pas très bien comment les choses évolueraient. Donc moi, j'aurais tendance à plaider plutôt pour une plus grande coalition où on intégrerait les Verts en revenant à la politique qui était celle du gouvernement précédent, qui n'a pas fait un si mauvais travail. Moi, je dirais continuer là où Scholz a échoué, réintégrer les Verts qui avaient certainement raison en matière de politique climatique. Pour moi, c'est beaucoup plus difficile de poser un regard précis sur la politique et sur la situation en France. Moi, ce que j'aimerais, bien entendu, c'est qu'on redynamise le Parti socialiste en France. Moi, je mettrais mes espoirs dans un Parti socialiste renouvelé en France. Et pour l'Italie, je dois dire que la situation me semble assez désespérée. La gauche y a totalement échoué et n'y existe quasiment plus. En Espagne, on peut toujours avoir des espoirs. Je ne sais pas dans quelle mesure la question est personnelle ou non. J'essaye d'imaginer que je suis assis avec Habermas il y a 2 ans. Qu'est-ce que je lui aurais dit pour le sortir de ce pessimisme si profond? Oui, c'est exactement ça ma question. Je lui aurais dit, peut-être, par exemple, je regarde la jeunesse, j'ai des enfants moi-même qui ont une 30aine d'années, 35 ans, et que cette jeunesse ne doute en rien de l'Europe. Je crois que l'Europe est en quelque sorte source de confiance, l'existence même de l'Europe donne confiance. Je crois que ça n'intéresse personne que de rétablir les frontières nationales. Au contraire, je crois qu'il y a quand même un fort mouvement d'opposition à un rétablissement des frontières en Europe. Donc même chez les conservateurs, et quand je dis conservateurs, je ne parle pas de la droite radicale. Quand je parle des conservateurs, je parle des partis conservateurs. Et même chez eux, l'Europe, ils sont très ancrés en Europe, très axés sur l'Europe. Donc en majorité, les citoyens européens ont une confiance dans l'existence même de l'Union européenne. Une politique anti-européenne a parfois été menée, mais vous voyez que Mélanie elle-même a fait marche arrière. Alors on ne saurait pas ce qui se passerait en France s'il y avait un gouvernement de la droite radicale. Est-ce qu'il voudrait quitter l'Europe? Je n'en sais rien. Je crois que quelque part, il y a une confiance quand même en l'Europe. Moi, j'aurais dit à Jürgen Habermas, pense à tes convictions social-démocrates, essaye avec des intellectuels de gauche, des intellectuels de la social-démocratie, d'établir une sorte de nouveau New Deal, et essaye avec tous ces partenaires de la gauche européenne de ficeler un programme avec l'espoir qu'il puisse encore toucher les cœurs des travailleurs. Voilà ce que je lui aurais dit. J'aurais dit, il faut arrêter de se lamenter, prends exemple sur le pape, qui lui aussi est animé par l'espoir qu'il pourrait changer quelque chose et qui, en quelque sorte, tient une sorte de prêche morale. Alors je lui dirais, ne le fais pas comme le pape, fais-le avec tes convictions de gauche. Mais vraiment, je crois qu'il nous faudrait un New Deal. Oui, je crois que ça fait une transition parfaite pour donner la parole à notre public. Vous pouvez également poser vos questions en français. Monsieur Honneth comprend le français. Et surtout, que vos questions soient brèves. Et n'hésitez pas, ou s'il vous plaît, même présentez-vous avant de poser votre question. Et puis, on va vous passer le micro pour traduire les questions. Merci beaucoup pour cette conférence passionnante. Je viens souvent participer aux conférences ici à la maison Heinrich Heine. J'ai suivi toutes les conférences de ce cycle. Donc, pour être bref, je voudrais revenir sur le concept de reconnaissance centrale à votre œuvre et puis vous proposer une thèse. Je parle de la reconnaissance verbale des classes exclues, comme par exemple les travailleurs blancs ou les ouvriers blancs aux États-Unis ou ici aussi, où il manque une reconnaissance et elle ne vient que des partis de la droite, qui est bien entendu plus facile qu'un vrai soutien social, qu'un vrai nouveau New Deal, qu'une revalorisation des salaires, donc plus facile qu'une véritable politique économique équitable. Et donc, c'est une reconnaissance qui est toxique. Donc je reviens sur ce concept de reconnaissance que j'ai peut-être mal compris chez vous, et si vous le souhaitez, vous pouvez peut-être réagir et même l'étendre. Ah si, si, je comprends tout à fait ce que vous dites, c'est tout à fait mon domaine. Mais c'est vrai qu'actuellement, les populistes de droite mettent en scène une sorte de politique de reconnaissance de tous les exclus. Donc, des travailleurs, des ouvriers blancs, ça vaut pour de nombreux pays. Ou des... Par exemple, si vous regardez dans la région de la Ruhr, qui était une grande région, un grand pôle industriel, avec, qui a souffert massivement de la désindustrialisation et qui connaît donc un chômage important, qui connaît des difficultés pour passer de l'ère industrielle à l'ère post-industrielle. Là, il y a beaucoup de travailleurs turcs, par exemple, qui votent pour l'AFD, donc l'extrême droite allemande. Donc, dans les partis établis classiques comme les sociodémocrates dans la région de la Ruhr, on ne retrouve plus cette reconnaissance et donc on se tourne vers d'autres partis. Donc, c'est vrai qu'à première vue, c'est comme ça que se passent les choses. Les partis de la droite populiste, en effet, donnent ce sentiment de reconnaissance à ces personnes qui se sentent exclues. Ils disent, nous, nous parlons en votre nom, nous prenons la parole vous. C'est également Trump avec tout le mouvement MAGA. Ce sont en fait les exclus qui sont en rébellion contre le néolibéralisme de Clinton et des partis démocratiques. Mais dans la deuxième partie de votre intervention, vous disiez une chose qui est juste également. Nous autres, les observateurs, nous savons que cette reconnaissance promise par la droite populiste n'est pas suivie ou accompagnée d'une véritable politique sociale. On le voit encore une fois très bien aux États-Unis. Toutes ces attaques contre les services publics menées par les républicains depuis des années sous Trump, eh bien ça c'est quelque chose qui va totalement à l'encontre des intérêts en fait de ces personnes qui se sentent exclues. Mais en fait, il suffit de suggérer, de donner l'impression qu'on les reconnaît sans pour autant concrétiser véritablement cette reconnaissance. Et c'est, je crois, ce qui caractérise la situation actuelle. Tout d'abord, ces classes qui sont touchées par la désindustrialisation, eh bien, il faut pouvoir les intégrer dans le discours politique et prendre au sérieux ce sentiment d'exclusion dont ils souffrent. Ils souffrent de l'impression de ne plus participer au processus démocratique. Ils ont l'impression de ne plus être chez eux dans leur propre ville. Il y a un sentiment d'aliénation. Donc, si on leur donne l'impression qu'on prend leurs soucis, leurs préoccupations au sérieux, mais bien entendu, tout cela doit être politisé et doit être accompagné d'une véritable politique sociale. Ça, à mon avis, ce serait le bon programme. Donc votre thèse a plutôt été confirmée, c'est mieux. Je m'appelle Marko Pajevic, je suis spécialiste en littérature et culture. Merci pour votre analyse que je partage de façon générale. Il y a une chose que j'ai constatée, c'est un aspect que vous n'avez pas mentionné, à savoir le rôle des médias. Vous n'avez pas parlé du rôle des médias. Jürgen Habermas, ces dernières années, a lui aussi dû souffrir de torrents d'insultes dans la presse ces dernières années. Comment voyez-vous donc ce changement qui s'opère dans le paysage médiatique ? C'est un sujet très complexe avec les réseaux sociaux, les médias électroniques, et dans quelle mesure ces médias électroniques peuvent mettre en péril cette opinion publique. Alors le premier constat, c'est qu'effectivement, cette opinion publique démocratique, elle est menacée parce que elle dépend beaucoup de médias centralisés, je dirais, comme des quotidiens, ou la télévision, ou encore la radio, qui leur fournissent des informations fiables et crédibles. En fait, la fiabilité, la crédibilité de l'information, c'est ça qui est déterminant. Services publics de télévision, de radio, ou une presse subventionnée, à mon avis, ce serait la voie royale pour véritablement informer de manière démocratique. Et le réseau, le recours aux réseaux sociaux devrait être plus fortement réglementé, beaucoup plus fortement qu'on ne le fait. Moi, personnellement, je suis en faveur d'un contrôle plus fort des processus de communication publique. Je pense qu'il faut essayer de se reconcentrer sur ce qui permet d'avoir une opinion publique démocratique. Et en fait, c'est l'opinion publique qui doit pouvoir, d'un côté, contrôler les politiques de l'État, ce qu'elle fait partiellement, mais d'autre part, elle doit pouvoir également recueillir les désiderata, les plaintes de la population et transmettre ça aux politiques. Mais actuellement, il y a une sorte de confusion. L'opinion publique ne peut pas canaliser, organiser suffisamment. Et dans les 20 années à venir, je crois, il y a un chantier à mettre en place, à savoir orchestrer le débat de façon à ce qu'on parvienne de nouveau à des échanges organisés, structurés, un véritable processus démocratique. Comment y parvenir? Je n'en sais rien, mais je crois qu'il faut beaucoup plus contrôler tous les communications sur Internet, tous les médias sur Internet, car il y a là trop de personnes qui en profitent pour diffuser beaucoup plus fortement le populisme de droite. Je sais que ma réponse n'est pas satisfaisante, mais quand on voit la pression à laquelle la Commission de l'Union européenne est soumise de la part d'entreprises américaines pour assouplir le DSA, la loi sur les services numériques, alors là, on se demande comment on pourrait vraiment envisager une réglementation plus forte des médias électroniques. Il y a des initiatives. Il y a en Europe des acteurs qui disent qu'il faut mettre en place nos propres plateformes. Et en Scandinavie, il y a là beaucoup d'initiatives qui sont envisagées, où on propose en fait de faire les choses de manière beaucoup plus offensive en Europe. L'Europe doit se défendre contre ces grandes entreprises de la tech que Trump n'a cessé de renforcer d'ailleurs. Je crois qu'un enseignement à tirer de ce qui s'y passe actuellement, c'est que l'Europe, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est que l'Europe ne doit pas faire le dos rond devant Trump et le gouvernement américain, mais doit faire preuve d'audace, de courage, taper du poing sur la table. De toute façon, Trump, ça ne lui fait pas grand-chose. Mais je crois qu'il ne faut pas arriver et courber les chines à la Maison-Blanche devant Trump. Mais je pense qu'il faut peut-être lui dire ces quatre vérités et lui dire quels sont tous les principes américains qu'il a foulés aux pieds ces dernières années.
Oui, je vous remercie de me donner la parole. Et j'interviens à un moment où je me doutais que le débat allait arriver là, et plutôt qu'une question, je vais exprimer ma stupéfaction. C'est-à-dire que notamment, on en arrive à la question de l'information, des réseaux sociaux, etc., dans une Europe qui, pour la première fois de son histoire, est passée complètement à côté d'une révolution industrielle. Puisque aujourd'hui, ce qu'on veut réguler, c'est-à-dire en gros Internet, les réseaux sociaux, sont américains. Internet, c'est américain. Et quand je dis que pour la première fois dans l'histoire, l'Europe est entièrement passée à côté d'une révolution industrielle, pour mesurer ce que ça veut dire, c'est que imaginez qu'elle soit passée à côté de la précédente et qu'on ne saurait pas fabriquer Mercedes, BMW, Fiat, Renault et Airbus. Et aujourd'hui, l'Europe en est là. Il n'y a pas de GAFAM, et vous avez évoqué l'intelligence artificielle, mais il n'y a pas d'intelligence artificielle en Europe, il ne peut plus y en avoir, parce qu'on a raté la révolution. Et donc... Non, mais c'est pas seulement. Maintenant, ça pose une question.
Oui.
Est-ce qu'on doit se situer dans cette position d'essayer de couper les ponts justement avec ce monde-là? Parce que de toute façon, le retard est pris et on ne le rattrapera pas, mais au moins qu'on s'y tienne et qu'on essaye d'y trouver une place plutôt que d'essayer de le contrôler et de le garder pour en revenir au vieux système où en Europe, l'Europe voulait absolument, avec France Télécom, Deutsche Telécom, British Telecom...
Je pense qu'on a compris votre propos. On va laisser à M. Honneth le soin de répondre, s'il vous plaît. D'accord.
Est-ce qu'on doit revenir à cette obsession?
Oui, on a compris. On a compris. Merci beaucoup.
La population et ses opinions.
Merci.
Merci beaucoup. Je dois vous répondre en allemand. Pourquoi est-ce que l'Europe ne pourrait pas jouer le rôle qu'elle sait bien jouer depuis 200 ans, qui remet toujours en question ce qui se passe sur le plan moral? L'Europe, elle ne vit pas d'idées communes et elle ne vit pas forcément des progrès économiques. Ça, c'est plutôt le rôle qui est désormais joué depuis longtemps par les États-Unis et par la Chine. Ce qui caractérise l'Europe, c'est de pouvoir mobiliser des forces qui réfléchissent, qui remettent en question ce qui se passe et qui peuvent apporter des correctifs. Ce que dit le pape, c'est un exemple d'une mentalité, d'une culture typiquement européenne. Et si l'Europe, désormais... Alors bon, aux États-Unis, en Chine, donc il y a des superpuissances qui, elles-mêmes, sont partout sur le marché de l'IA, le marché de la tech. Et dans ce contexte, je pense que l'Europe doit faire ce qu'elle sait mieux le mieux faire, dire où voulez-vous aller, où mettre des limites, où faut-il réglementer, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bon, moralement, est-ce qu'il faut avoir recours à des robots, par exemple, dans les soins de santé? Ce type de questions, on ne les porte pas aux États-Unis et en Chine. En Chine, elle est peut-être posée, mais en tout cas pas publiquement. Pourquoi est-ce que l'Europe ne peut pas participer à cette évolution avec ce qu'elle sait si bien faire, trouver les limites morales et puis voir ce qui est compatible avec le progrès social? Donc discutons ici de la question de savoir si nous voulons véritablement qu'à l'avenir, nos personnes âgées soient accompagnées par des robots. C'est une question qui me semble éminemment importante. Mais je crois que nous, en Europe, nous devons poser les questions que personne d'autre ne pose dans ce monde. Et moi, je suis heureux si l'Europe trouve sa place dans ce rôle et mène ce dialogue avec ces puissances technologiques pour les interroger, pour leur dire, est-ce que cette évolution, c'est véritablement ce à quoi vous espérez? Nous avons beaucoup de réserves, nous avons traversé beaucoup de choses, nous avons connu de nombreuses crises, nous avons même connu l'Holocauste, la Shoah, nous savons ce qui peut se passer lorsque l'on permet de telles ruptures civilisationnelles. Donc, ensemble, posons-nous les questions que nous savons nous poser. Nous avons surmonté des guerres de religion, nous avons mené de profondes révolutions, et c'est de cette façon que nous avons su nous unir. Cette union, elle est précaire, mais elle vit avec un socle, celui d'avoir surmonté les crises morales, les tensions sociales. Et donc, c'est ça, je crois, le rôle de l'Europe. Moi, je n'ai pas peur la grande tech aux États-Unis ou des robots en Chine, parce que je sais que tout cela, ça peut mener aussi à quelque chose de terrible, et donc ils ont besoin de leurs limites. Et nous, en Europe, c'est de cela que nous devons parler. Je crois que nous avons encore un peu de temps pour une dernière question. Je vous en prie. Est-ce que vous m'entendez? Tout d'abord, merci beaucoup pour cette discussion et pour vos réponses. Je m'appelle Philippe, j'étudie l'économie à Paris, je suis résident à la Cité universitaire. Alors, on a parlé des crises de la social-démocratie. Moi, ce qui m'intéresserait, C'est que pensez-vous des théories de l'extrême gauche, comme le socialisme ou le communisme, pour expliquer ces crises? Rosa Luxembourg, qui dit que la social-démocratie est vouée à l'échec parce qu'elle ne sait pas en quelque sorte atténuer les effets du capitalisme par des réformes, ou Marx, qui dit que quand le capitalisme ne peut pas s'étendre car il se heurte à des frontières naturelles et qu'au bout du compte, tout cela mène à des crises. Donc, que pensez-vous de ces théories et tout cela vu dans le contexte de ce débat? Je vois que là-bas, il y a encore quelqu'un qui voulait prendre la parole. Donc, une dernière question de la part de la jeune femme et ensuite, je vous donnerai la parole pour répondre.
De me donner la parole, je m'appelle Aurore Le Chevalier. Je suis étudiante en littérature allemande à Paris. Et je change un peu de sujet, je voulais revenir à la première question qui a été posée. Vous parlez de réintégrer les ouvriers allemands, électeurs de l'AFD, qui se sentent exclus du processus démocratique. Mais il y a une majorité de ces électeurs de l'AFD qui partagent aussi des idées qui peuvent être xénophobes ou racistes. Et ma question, c'est comment concilier cette tension entre des gens qui subissent une discrimination de classe et qui pourtant perpétuent des idées, des comportements qui sont aussi néfastes à la démocratie en elle-même, et comment dans le processus d'intégration on peut faire avec cette tension.
Je vais commencer par la première question. C'est une chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Si aujourd'hui, il était possible d'envisager un programme post-capitaliste, eh bien dans ces cas-là, mes sympathies iraient plutôt vers la ligne de Rosa Luxembourg. Mais aujourd'hui, et cela vaut aussi pour la gauche, M. Piketty ou autre, cette gauche ne sait pas très bien elle-même par quoi remplacer le néo-capitalisme. Non, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Ce que nous savons, ce que nous connaissons, c'est comment on peut mieux contrôler le marché plutôt que d'avoir un capitalisme débridé. Je pense qu'une privatisation à grande échelle, c'est une erreur. Nous savons qu'on a besoin de biens financés publiquement, on a besoin de services publics, des écoles, des hôpitaux, piscines. Et puis on a besoin d'une toute nouvelle politique de construction des logements avec ici beaucoup plus, en fait, de logements publics, comme c'est le cas dans certaines villes. Et nous savons qu'une économie centralisée, une économie planifiée, socialiste, ça ne fonctionne pas. Donc la question est de savoir quels sont les instruments de la politique économique qui permettraient de se substituer aux forces du marché. Aujourd'hui, en tant que socialiste ou sociodémocrate, on a tendance à travailler de manière beaucoup plus expérimentale parce qu'on n'a plus de convictions. Rosa Luxembourg, Marx, ils étaient convaincus que le capitalisme devait être remplacé par un système non capitaliste. Et en général, eh bien, il s'agissait d'une économie centralisée, planifiée. Bon, cette illusion, elle n'existe plus. Et donc, aujourd'hui, on ne sait pas très bien vers quoi tendre. Donc, on est plus dans l'expérimental. Je pense qu'il faudra certainement envisager des systèmes économiques plus mixtes à l'avenir. Il va falloir peut-être arrêter d'avoir peur de ce qu'on appelle l'économie planifiée, dans le sens où on a déjà beaucoup d'économies planifiées. On a vu pendant la crise du Covid comment brusquement tout le monde voulait de l'économie planifiée. Tout le monde disait on a besoin d'un plan clair. Donc, je pense qu'il faut réfléchir avec plus d'ouverture, arrêter d'être totalement fixé sur le marché et surtout ne pas être convaincu qu'on pourrait faire les choses avec une économie purement planifiée à l'avenir. Donc, il va falloir expérimenter, voir comment on peut fonctionner avec des économies hybrides, donc avec le marché, avec une planification étatique, avec une politique économique à l'échelle locale également. Ce que les Chinois ont essayé d'ailleurs de faire pendant un moment, ils ont essayé de réfléchir à des programmes d'économie mixte, mais les anciennes solutions, les anciens programmes n'ont pas fait leur preuve. Donc, ce dualisme avec d'un côté le capitalisme et d'autre côté le système non capitaliste. Je veux dire, on ne sait pas. Donc je crois qu'il faut ici avoir une approche plus expérimentale. La question que vous posez est une question clé, je le reconnais. Mais je ne pense pas que toute la classe ouvrière menacée par la désindustrialisation et qui ne se retrouve plus représentée par les partis socialistes, sociaux-démocrates et qui du coup se tourne vers les partis populistes de droite, je ne sais pas dans quelle mesure ils sont vraiment racistes. Certes, il y a des groupes racistes. Si le racisme, c'est avoir des préjugés contre des personnes de couleur de peau différente, oui, là, on est confronté à du racisme, ça existe. Bizarrement, le racisme est beaucoup plus fort là où la proportion de migrants est la plus faible. C'est un paradoxe énorme, du moins en Allemagne. C'est en Allemagne de l'Est qu'il y a plus de racisme et pourtant c'est là qu'il y a le moins de migrants sur le territoire allemand. Comment est-ce que ça s'explique? Donc je pense qu'il faut vraiment prendre sérieux ce sentiment d'exclusion de certaines couches sociales. Ça, il faut vraiment le prendre au sérieux. Et il faut essayer de mieux communiquer sur le plan politique. L'une des grandes erreurs de la politique de Scholz, c'était de ne pas communiquer, de ne pas expliquer les mesures et la prise de la politique menée. C'est toujours le cas aujourd'hui. On enlève, par exemple, des pancartes dans la rue parce que on a l'impression que des noms de rue remonte au colonialisme et qu'on a un nom de rue qui est celui d'un ancien dirigeant militaire, mais ça ne sert à rien. Les gens ont l'impression, en fait, qu'on ne les laisse pas s'exprimer. Je n'ai jamais beaucoup aimé le terme de politique identitaire. Il faudrait peut-être trouver une autre façon de parler de cela, mais il y a véritablement une sorte d'aliénation culturelle ressentie par certaines couches de la population. Il faut les prendre au sérieux et il faut juste espérer que ce racisme ne soit pas ancré plus profondément. Je ne peux pas le dire autrement. Difficile de le croire, mais il est déjà 21h. J'ai l'impression que nous nous sentons peut-être moins orphelins après avoir entendu Axel Honneth. Je remercie tout le monde, le public, les interprètes, tous ceux qui ont contribué donc à cet événement. Et je vous souhaite que le dernier événement de ce cycle soit également pour nous de succès. Merci beaucoup.